Flagrant délit, une enquête de l'inspecteur Gray par Alfred Garnion. C'était vers la fin de mars 1939. Gray, à peine rétabli d'une assez forte grippe, pestait dans sa chambre contre cette pluie qu'il devinait glacée et qui dehors tombait inlassablement. Il ne pourrait pas encore ce jour-là faire sa première sortie. Il était près de midi quand le timbre de la porte d'entrée sonna brièvement. Quelques secondes après, la vieille et dévouée domestique de l'inspecteur lui annonçait qu'une jeune dame insistait pour être reçue. Elle avait donné son nom, Mademoiselle Françoise Estier. À la vérité, ce nom évoquait un souvenir récent dans l'esprit de Gray, mais il ne déterminait pas en quelle occasion il l'avait lu ou entendu. Ayant troqué sa robe de chambre contre une tenue de ville, il rejoignit la visiteuse. « Je m'excuse de vous déranger, » dit-elle d'une voix douce un peu angoissée. « C'est Mme Jeffries qui m'a conseillé de venir vous demander secours. » L'évocation de l'affaire Jeffries ramenait Gray à l'époque, lointaine déjà, de ses premières réussites, et le nom de la douloureuse femme du diamantaire était la meilleure introduction que Françoise Estier eût pu trouver auprès du réputé policier. Aussi fit-il un geste d'accueil très doux, et la jeune fille s'étant assise dans une sorte d'affaissement poursuivit non sans un effort marqué. « Je suis la sœur de Jacques Estier, vous savez, le prétendu meurtrier de M. Bréchin, l'agent de change. » Les souvenirs de Gray s'étaient rapidement précisés. 8 ou 10 jours auparavant, il avait lu dans les journaux les circonstances du drame. Un soir, deux chauffeurs sortant en fin de journée d'un garage d'Auteuil, alors que la nuit commençait à tomber, allaient tourner à 20 mètres plus loin, le coin d'une rue, lorsqu'ils avaient perçu le bruit de coups de feu provenant justement de la voie où ils allaient s'engager. Le plus jeune des chauffeurs s'était aussitôt mis à courir en avant tandis que l'autre, déjà âgé, s'était contenté de hâter le pas pour suivre son camarade. Le premier, dès qu'il avait pu se rendre compte de ce qui se passait dans la rue latérale, avait aperçu un homme debout qui lui tournait le dos et tenait encore un revolver à la main, tandis que presque au pied de cet homme, un second personnage gisait à terre. Ce dernier était l'agent de change bien connu Albert Bréchin et l'agresseur, un de ses jeunes et principaux collaborateurs, M. Jacques Estier. Celui-ci, à l'approche des chauffeurs, s'était empressé de s'écrier, sans doute pour tenter à ses vêtements de donner le change. Le meurtrier s'est enfui par là, et se disant, il désignait de la main une avenue qui, quelques pas plus loin, traversait la rue. Estier ajoutait encore, « J'ai tiré, mais avec ce brouillard, je l'ai sûrement manqué. » Les gardiens de la paix, attirés à leur tour par le bruit, étaient presque simultanément survenus. L'un des agents emmenait le jeune homme au commissariat tandis que son collègue, aidé des chauffeurs, avait transporté Bréchin à sa demeure proche. L'agent de change avait expiré dès son arrivée à son domicile sans avoir repris connaissance. Le lendemain matin même, Jacques Estier, inculpé de crime, était mis à la disposition de la justice. Mademoiselle Estier, qui avait respecté le silence pensif de son hôte, comprit à l'attitude de Gray qu'il était plutôt mal disposé à agir en faveur d'un homme dont la culpabilité lui paraissait établie. Elle s'affola. « Oui, » dit-elle précipitamment, « je devine, vous aussi, comme les agents, comme le commissaire, comme le juge, comme l'inspecteur, vous croyez mon frère coupable. » La véhémence du ton, l'énergie et la franchise de la jeune fille n'étaient pas évidemment sans ébranler un peu la conviction de Gray. Il demanda. « Mais d'abord, comment votre frère avait-il un revolver sur lui ?»«
Nous habitons, » répondit-elle, « dans la même rue que M. Bréchin. » Quelques maisons plus loin. Le quartier est très solitaire, bien que généralement habité par des gens riches. Or, il arrive souvent à mon frère de rentrer tard, notamment durant les liquidations de fin de mois. Aussi a-t-il demandé et obtenu une autorisation de port d'armes.
Gray hocha la tête et questionna encore. Quelle est la version des faits que donne M. Jacques Estier ?
Eh bien, voici. Jacques a quitté ce soir-là son bureau vers 6 heures pour aller prendre le métro qui le ramène chez nous, ainsi qu'il fait chaque soir. Comme à peu près chaque soir aussi, pendant le trajet, il était dans le même wagon que M. Bréchin. En arrivant à la station Axelman, mon frère laissa par discrétion son patron prendre les devants, bien qu'il lui empruntait le même chemin, ce qu'il fit, tout en parcourant un journal du soir qu'il venait d'acheter. En arrivant au coin de notre rue, Jacques remit son journal dans sa poche et s'aperçut qu'il ne marchait plus qu'à quelques mètres de M. Bréchin. Comme déjà il ralentissait de nouveau le pas, une ombre sembla surgir de la brume sur le milieu de la chaussée et venir au-devant de l'agent de change. Avant que mon frère ait réalisé ce qui se passait, il entendit un coup de feu et vit M. Bréchin s'affaisser sur le trottoir. Ce fut pour mon frère comme un réflexe de tirer son revolver de sa poche et de faire feu sur l'assaillant de son patron. Comme Jacques avait sans doute manqué son but et que le meurtrier, s'enfuyant, allait disparaître dans une avenue latérale, mon frère fit feu une seconde fois et se préparait à le poursuivre quand les chauffeurs se sont jetés sur lui, le prenant pour le criminel. Certains points de cette relation avaient visiblement attiré l'attention de Gray. Aussi s'est empli d'espoir que Françoise Estier s'était retirée. Une heure après, Gray, ayant rapidement déjeuné, sortit de chez lui pour se rendre à la police judiciaire. Là, il s'enquit de celui de ses collègues chargés de l'affaire Estier. Dès qu'il eut appris que c'était l'inspecteur principal Poussin, il ne put s'empêcher de faire la grimace. Le brave Poussin était un adversaire aussi jaloux qu'irréductible de Gray, et celui-ci, qui ne l'ignorait point et s'en moquait ordinairement, prévit qu'en l'occurrence il ne rencontrerait aucune aide chez son gros collègue. Il le rejoignit cependant, mais à peine avait-il ouvert la bouche sur l'affaire Estier que Poussin s'esclaffait. « Ah ah ! Le célèbre Monsieur Gray s'intéresse à cette affaire. On prend un homme les mains dans le sac, jamais culpabilité n'a été plus flagrante, plus évidente. Aussi cela tracasse-t-il le grand inspecteur. Ça lui paraît normal qu'il n'y ait pas là-dessous quelque énigme à déchiffrer et sur laquelle son génie puisse s'exercer. Eh bien bravo, cher ami, allez-y, livre à vous, faites joujou. » Gray fixait tranquillement Poussin qui, sûr de lui cette fois, se dodelinait, le ventre secoué d'un rire moqueur et son petit œil noir en bouton de bottine, tout émerillonné par l'idée de sa victoire anticipée. Mais, avant de le quitter, Gray éprouva le besoin de lancer la flèche du part. « Mon cher Poussin, dit-il doucement, il y a des murs qui rendent la vue aux inspecteurs aveugles. » Ayant laissé tomber ces mots sibyllins, il laissa son collègue dont le rire s'était éteint sous le souffle d'une inquiétude naissante. Tout en se rendant au greffe criminel dans le but principal d'examiner la déposition des témoins dans l'affaire Estier, Gray se demandait pourquoi l'idée lui était venue de jeter cette histoire de mur à la tête de son collègue. C'était là, certainement, une expression de son subconscient ou la matérialisation d'une pensée lui ayant traversé l'esprit et qu'il n'avait point retenue. Sans plus se préoccuper de cela, pour l'instant, il examina le dossier. Il ressortait des constatations que M. Bréchin était tombé dans le jardin d'un hôtel particulier portant le numéro 18, que le corps était, après l'attentat, tourné à terre dans le sens de la marche, que la balle qu'il avait tuée avait pénétré dans la poitrine et malencontreusement atteint la région cardiaque, que ce projectile était identique aux cartouches de l'arme de Jacques Estier, qu'il manquait deux cartouches à cette arme et que par conséquent un des projectiles s'était probablement perdu, que la balle meurtrière avait été tirée à une distance d'environ 3 ou 4 mètres. Gray passa aux dépositions des chauffeurs et des agents. À les lire attentivement, on s'apercevait que les témoins n'étaient pas complètement d'accord. Une idée le fit revenir au rapport relatif aux constatations, et tout à coup il se releva vivement, prit son chapeau et sortit rapidement du greffe. Dès qu'il fut hors du palais, il se jeta dans un taxi et se fit conduire à Auteuil en face de ce numéro 18 de la rue où s'était déroulé le drame. Là, ayant envoyé le chauffeur, seul au bord du trottoir, il entreprit une reconstitution. Il retourna jusqu'au coin de la rue pour revenir aussitôt sur ses pas. Parvenu de nouveau au numéro 18, il s'arrêta, esquissa le geste de tirer un revolver de sa poche et de le braquer vers un point imaginaire se trouvant à hauteur d'homme, à quelques mètres du trottoir, vers le milieu de la chaussée. Au bout de son bras, dans le prolongement de la ligne de mire, il apercevait de l'autre côté de la rue un mur gris, crépi, se prolongeant de quelques pas jusqu'à l'angle d'une avenue latérale. Or, c'était bien là le mur dont Gray avait parlé à Poussin. Et s'il en avait parlé, ce n'était point par pure invention, mais parce que ce mur devait y être, comme il aurait dû être dans toutes les rues de Paris, mur d'immeuble ou, comme ici, mur de clôture d'un jardin. Et, de même, si les dires de Jacques Estier étaient exacts, il était évident qu'on devait retrouver sur ce mur la trace des deux projectiles qu'il prétendait avoir tirés. Si on retrouvait ces traces, comme ça ne pouvait pas être l'arme du meurtrier qui les avait occasionnées, puisque le meurtrier tournait le dos au mur, elle innocentait Estier. Gray traversa la rue et entreprit des recherches minutieuses. il ne tarda guère à retrouver non seulement la première trace d'un projectile, mais ce projectile lui-même qui s'était encastré dans le crépi assez tendre du mur. Il se garda d'y toucher et poursuivit, vainement cette fois, ses investigations jusqu'à l'extrémité du mur au tournant de l'avenue. À plusieurs reprises, il réitéra ses recherches. Il n'arrivait pas à retrouver le second projectile. Il se désolait d'être arrêté à mi-chemin entre l'établissement de constatations convaincantes et la subsistance d'un doute. Cependant, une hypothèse assez fragile naissait en son imagination. Il résolut de la contrôler. Pour cela, il s'engagea d'un pas tranquille dans l'avenue latérale et la descendit, examinant chaque maison, chaque porte, des deux côtés de la voie. Après quelques centaines de mètres, il avisa un hôtel meublé assez modeste d'apparence et dont le rez-de-chaussée se composait d'un débit de boissons. Gray sembla ne marquer aucune hésitation à pénétrer dans ce lieu, pourtant peu engageant, et, dès l'entrée, avisant un homme d'aspect squelettique qu'il avait des verres derrière le comptoir, il demanda, d'une voix étouffée, semblant inquiète, « Comment va-t-il ? » Le visage âpre de l'homme se leva, soupçonneux. « Qui ça ? » demanda-t-il. Mais la question ne donnait pas le change à Gray. Il s'avança délibérément vers l'homme. « Police ! » dit-il d'une voix sèche. « Conduisez-moi !» Vers la fin de l'après-midi, Poussin était fort occupé à rédiger un rapport de sa plus belle écriture, lorsque, pour la seconde fois de la journée, il vit paraître Gray devant lui. Que diable voulait encore le sorcier ? C'était là le surnom dont ses collègues avaient pour ses réussites invraisemblables gratifié Gray. Le visage de celui-ci était pour l'instant impénétrable, mais le long silence qu'il observait depuis son entrée tout en regardant Poussin était lourd d'inconnu. « Alors ?» finit par questionner Poussin, exaspéré. « Oh, pas grand-chose !» répondait Gray en allumant une cigarette sans se presser. « Non, pas grand-chose, si ce n'est que le sieur Eugène Malby vous attend à l'infirmerie du dépôt. » Les gros sourcils de Poussin se froncèrent. « Malby, qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ça ?» ironisa Gray. « C'est l'assassin de M. Bréchin. »« Quoi ?» Poussin s'était levé d'un bond. Il savait à quoi s'en tenir. Quand Gray émettait une affirmation avec cette froide modestie, c'est que le fait était indiscutable. « Ça, par exemple, commençait-il. Comment avez-vous pu ?»« Oh, c'était enfantin, » assurait Gray. Avec un peu de réflexion, n'importe qui serait arrivé à ce résultat. Ainsi, vous-même. Poussin se gratta la tête. Ainsi, vous-même, poursuivit Gray, implacable. Si vous aviez réfléchi, vous vous seriez sûrement dit qu'Estier, surpris quelques secondes après le meurtre entre les chauffeurs et Bréchin, c'est-à-dire derrière ce dernier, ne pouvait avoir atteint la victime en pleine poitrine alors que la position du corps à terre détermine que l'agent de change est tombé face à la direction de sa marche. Ceci vous aurait encouragé, malgré un soi-disant flagrant délit, à tout de même contrôler les dires de Jacques Estier, ne serait-ce que pour lui prouver, à vous-même, que ses assertions n'étaient que mensonges simplement destinés à essayer de sauver sa tête. « Contrôler !» s'exclamait imprudemment Poussin. « Mais comment ?»« Le mur, Poussin, ce mur, qu'il y avait 9 chances sur 10, de trouver dans une voie parisienne et sur lequel, si Estier disait vrai, on devait retrouver les traces de ses projectiles. » Vous les avez retrouvés ? J'en ai retrouvé une sur le mur et l'autre dans la jambe de Malby. Cet homme avait juste pu rejoindre l'hôtel où il habitait depuis quelque temps, non loin de chez son ancien patron, M. Bréchin. Après le meurtre, il s'y était erré, n'osant faire venir un docteur, souffrant terriblement de sa blessure. Il était temps que j'arrive. Il m'a facilement tout avoué. Voilà. Soyez assez gentil pour faire en sorte que le juge fasse remettre M. Estier en liberté dès demain. Bonsoir, Poussin. Ainsi s'achève, flagrant délit, une enquête de l'inspecteur Gray par Alfred Gragnon.